journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand la France voyage en terre inconnue, une France qui a si peu voté hier en se lavant les mains et qui se demande si elle votera dimanche prochain, les élections font-elles le poids face au coronavirus? C'est ce qu'on va voir dans un instant et dans 20 minutes avec vos invités, Nicolas.
Oui, ils sont nombreux pour cette matinale spéciale consacrée à la fois au coronavirus et donc aux résultats de ce premier tour des municipales à 8h20. Yannick Jadot pour les Verts sera avec nous. Dans la foulée, Nicolas Bay pour le Rassemblement National et Damien Abad qui lui viendra nous donner sa lecture, son analyse des résultats pour le parti Les Républicains.
Et pas de café au comptoir ce matin, pas de resto à midi, on n'achètera pas de chaussures. Avant un bon moment, les commerces verrouillés, c'est ce matin qu'on en prend conscience. Le télétravail, très fortement indiqué, nous serons Gare Saint-Lazare, où la matinée est bien plus calme que d'habitude à Paris, avec des profs qui se préparent à faire cours en ligne. C'est l'école à la maison qui commence aujourd'hui pour tous les élèves de France. Et tout ça dans le but d'éviter de subir ce que vivent les Italiens. On en aura une idée précise à l'hôpital de Bergame dans ce journal.
France Inter.
Dimanche 15 mars, après 20h, soirée électorale sans élection sur tous les plateaux télé.
On est quand même face à une crise sanitaire sans précédent depuis la guerre.
Normalement, on devrait commenter les résultats électoraux. En réalité, et c'est normal,
on le fait peu.
On parle que de la situation sanitaire parce que c'est ce qui inquiète les Français.
J'écoute les scientifiques, les médecins. Notre rôle, à un moment donné, c'est... d'écouter ce que nous dit la communauté scientifique et il semble clair qu'il va y avoir des mesures de confinement supplémentaires. On ne peut pas envoyer des messages contradictoires.
Ségolène Royal, Philippe Mariani, Alexis Corbière, jamais n'aura-t-on si peu parlé de résultats lors d'une soirée électorale et ce matin de lendemain de premier tour de municipal marqué par une abstention record entre 53,5 et 56%, c'est 20 points de plus qu'en 2014 et marqué par cette question, y aura-t-il un second tour dimanche prochain? Bonjour Yael Gauz.
Bonjour Florence.
Dans une France au stade 3 de l'épidémie de coronavirus où le ministre de la Santé nous implore de rester chez nous, où l'opposition cette fois réclame un report du scrutin, est-ce qu'on peut vraiment organiser ce second tour?
Pour tout vous dire, peu de ministres ou de cadres en marche parieraient sur la tenue de ce deuxième tour dimanche prochain après une telle abstention et face à la courbe exponentielle du virus. Mais hier soir, Édouard Philippe, attendu au tournant, n'a pas voulu trancher dans l'urgence.
C'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour. Je réunirai à nouveau, en début de semaine, le conseil scientifique, puis je consulterai les représentants des forces politiques.
A priori, tout ça, ce sera demain. Et c'est vrai qu'on a un peu le tournis, Florence. Les mêmes, notamment à droite, qui ont mis la pression jeudi sur Emmanuel Macron pour qu'il y ait absolument un premier tour hier, réclament désormais le report du deuxième. Fin de l'Union sacrée. Hier, Emmanuel Macron, depuis le Touquet où il votait, disait qu'il fallait continuer à aller aux urnes malgré tout, sauf que les messages de confinement percutent cette injonction, ce qui explique l'abstention record. À Matignon, on considère que les bureaux de vote étaient hier parmi les endroits les plus propres et les plus sûrs de France.
Alors Yael, on va faire un tour d'horizon dans quelques instants des résultats de ce premier tour, mais si on reporte le second, quid de ce premier tour de dimanche?
Alors là, c'est le saut dans l'inconnu juridique. Le droit n'avait pas prévu le Covid-19. Que dit le code électoral? Que l'élection municipale, c'est un tout. Deux tours ou rien. S'il n'y en a qu'un, on efface tout et on recommence. Problème, il y a eu des élus dès le premier tour hier. On voit mal comment leur dire que c'était pour du beurre. Et puis, il y a les candidats arrivés largement en tête. Les écolos à Lyon, Hidalgo à Paris, Bayrou à Pau. On oublie tout et on remet les compteurs à zéro. Difficile aussi. Jean-Philippe de Rosier, prof de droit public à Lille. Pour lui, on doit pouvoir, via un décret de report, suivi d'une loi d'urgence sanitaire, congeler le premier tour en attendant des jours meilleurs pour organiser la suite.
La loi pourra tout à fait dire que aujourd'hui, il y a eu les élections municipales, qu'il n'est pas possible de faire le second tour et que donc on réorganise une élection municipale partielle dans toutes les communes qui ne sont pas encore dotées d'un maire. Ces nouveaux élus ne sont pas élus pour 6 ans, ils sont élus simplement pour la durée du mandat qui reste à courir.
Ouais, le problème, c'est la date de péremption entre le moment où on fait ce deuxième tour. Ça signifierait aussi faire siéger le Parlement dès cette semaine, le convoquer en urgence, plus de 100 personnes dans une même salle. Ah ben oui, mais on peut pas. Donc, et puis on compte déjà une dizaine de parlementaires contaminés. Tous les chefs de parti verront Édouard Philippe demain. Le consensus pour reporter est quasiment acquis, mais ni les LR ni les Verts n'ont l'intention de s'asseoir sur le premier tour.
Yael Gauz, chef du service politique de France Inter. Et que faut-il retenir politiquement de ce premier tour des municipales où il a fallu se laver les mains avant et après voter, ne pas toucher le rideau de l'isoloir, rester à distance de ses concitoyens? La politique au second plan, mais les urnes ont tout de même parlé et révélé la poussée écologiste en France. La liste liste verte, les listes vertes en tête à Lyon, Strasbourg, Grenoble, Besançon, à Bordeaux. Il s'en est fallu de 96 voix, mais vu le contexte, Cécilia Arbonnat, les Verts l'ont joué modeste.
Difficile, voire indécent, de célébrer de jolis scores électoraux dans un pays fébrile, entre crise sanitaire et abstention record. Europe Écologie Les Verts se doit d'avoir la victoire discrète. Julien Bayou, secrétaire national du parti.
Il s'agit pour nous de confirmer cette percée, de la transformer en ancrage territorial. Et là, eh bien, on a des scores très très hauts, au point d'être en tête à Bordeaux, Besançon, à Tours, Lyon, Strasbourg, d'être réélu au premier tour pour Daniel Dambard à Schlitzigheim, ou un très haut score à Éric Piolle, maire sortant de Grenoble.
Lorsque l'eurodéputé Yannick Jadot s'empresse de réclamer le report du second tour, il prend de court Julien Bayou, qui veut d'abord savoir ce que le comité scientifique sollicité par le gouvernement va préconiser.
On doit pouvoir débattre tranquillement pour, dans la concorde, et j'insiste sur ce mot, mettre sur la table toutes les hypothèses. Et donc si les conditions sont réunies pour un second tour, eh bien il se tiendra. Et si les conditions ne sont pas réunies, s'il y a un risque de renforcer l'épidémie, de surcharger à nouveau notre système de soins, eh bien évidemment que les écologistes ne s'opposeront pas au report.
Les Verts réclament des garanties. Ils veulent conserver leur bonus, leur crédit du premier tour, et surtout ils veulent éviter que l'on envisage de remettre les compteurs à zéro.
Et remettre les compteurs à zéro, pas question non plus pour les maires élus dès le premier tour. Il y en a peu sous l'étiquette de La République En Marche. Les ministres Gérald Darmanin à Tourcoing et Franck Riester à Coulommiers, les anciens LR, Christophe Béchu à Angers et Sébastien Lecornu à Vernon, et c'est à peu près tout. Karine Bécart, comme prévu, ces municipales sont une déception pour la majorité.
Il n'y aura pas eu de miracle pour La République En Marche. Certes, c'était attendu, mais cette fois c'est confirmé. D'abord pour les députés de la majorité. Nombreux sont ceux qui, comme à Montpellier, à Metz, à Toulon, à Sens, se sont retrouvés tout de suite balayés. Quant aux quelques-uns qui se sont qualifiés pour le second tour, Émilie Chalas à Grenoble, Sonia Crimi à Cherbourg ou encore Romain Gros à Perpignan, ils ne sont qu'en troisième voire en quatrième position, donc plutôt mal engagés. Mal engagés ensuite les villes que l'on pouvait qualifier de macronistes, à commencer par Lyon, bien sûr, par Besançon également, et même le fief d'Édouard Philippe, Le Havre, où le Premier ministre n'y est pas totalement en ballottage favorable. Et puis, restent toutes ces villes qui avaient été repérées, ciblées, dès l'été dernier par le parti d'Emmanuel Macron, qui espérait s'y implanter. C'est totalement raté à Bordeaux pour Thomas Cazenave, à Lille pour Violette Spilbou et idem à Rennes pour Carole Gandon.
Et raté à Paris où Anne Hidalgo avec 30% des voix est loin devant ses principales concurrentes, loin devant Agnès Buzyn et ses 17%. L'ancienne ministre de la Santé est troisième derrière Rachida Dati à 22%. La suite, si suite il y a, va relever des alliances entre les deux tours comme à Marseille où la liste d'union de la gauche crée la surprise en devançant Martine Vassal, héritière LR de Jean-Claude Gaudin. Chez les Républicains, dont le chef de file Christian Jacob est chez lui testé positif au coronavirus. Plusieurs ténors ont été réélus dès le premier tour, comme François Baroin à Troyes, Jean-François Copé à Meaux, réélection des maires LR de Reims, Charleville-Mézières et Calais. Christian Estrosi à Nice a failli l'emporter avec 47% des voix. Enfin, le Rassemblement National conserve ses villes d'Hénin-Beaumont, Fréjus, Beaucaire, Hayange ou Villers-Cotterêts, avec le soutien du parti Robert Ménard, et lui aussi réélu très confortablement à Béziers. Et Perpignan a placé Louis Alliot largement en tête.
Il est 8h10, Florence, voilà donc pour ces résultats du strict point de vue politique, tombés au crépuscule d'une journée, Florence, marquée par le bilan du coronavirus.
Une hausse sans précédent des décès et des contaminations en France, 36 morts, plus de 900 cas supplémentaires, 400 personnes en réanimation dans les hôpitaux. Les hôpitaux du Grand Est, précisément, sont en train d'atteindre les limites de leur capacité en réanimation. Les soignants redoutent un tsunami de cas graves dans les prochains jours sur tout le territoire. Un scénario à l'italienne que le gouvernement fait tout pour éviter, car voilà ce qui se passe en Italie. Reportage à Bergame, au nord de Milan, signé Omar Waman.
Dans le principal hôpital de Bergame, c'est une véritable déferlante de malades qui s'est abattue sur l'équipe médicale. Sofia Comandini, pneumologue, les traits tirés.
Sono tanti, tanti.
Ils sont si nombreux, si nombreux. C'est une marée.
La marea.
Une vague de cas sévères de la maladie et un manque criant de moyens qui pousse cet hôpital public à sacrifier les plus fragiles.
Si sceglie il giovane, si sceglie il sano.
On choisit les plus jeunes, les plus sains.
Ci vediamo in subito.
C'est une décision che nous prenons ensemble en concertation avec les différents services.
Si decide insieme.
Et puis, il y a l'impossibilité pour les familles d'accompagner leurs proches dans les derniers instants de leur vie. Simon Benatti, médecin infectiologue.
Tout le monde qui meurt, meurt seul, ici. Parce qu'en fait, on cherche de prévenir la diffusion du contagion. Ça, c'est une mesure de santé publique.
Et pour éviter la propagation du virus, l'Italie vit totalement confinée. Marco Rizzi, chef du service des maladies infectieuses, conseille à la France de suivre le même exemple.
Il faut se préparer parce que quand elle arrive, ça va très vite. Et si on pense continuer comme d'habitude, ça peut finir en désastre.
Et l'objectif, c'est d'enrayer la maladie sans céder à la panique. Bergame, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Suivre l'exemple du confinement italien, on en est encore loin dans les faits. En France, combien d'entre nous se sont promenés ou retrouvés sous le soleil hier? Ça n'est pas un acte de résistance que de sortir. L'insouciance peut tuer, a dit gravement le ministre de la Santé, qui implore la population de suivre les consignes, rester chez soi. Le télétravail doit devenir la norme. Qu'en est-il ce matin? Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Vous vous trouvez gare Saint-Lazare à Paris. La gare n'est pas déserte, me disiez-vous Yann, mais il y a beaucoup moins de monde que d'habitude.
En tout cas, en temps normal, cette gare est une véritable fourmilière. Mais ce matin, les voyageurs se font plus rares. Ceux qui n'ont pas le choix prennent quand même les transports en commun dans une ambiance étrange. On se tient à bonne distance les uns des autres. Certains voyageurs portent des masques. D'autres cachent leur bouche derrière une écharpe avec parfois une pointe d'inquiétude.
J'ai mon geste, j'ai mes gants, j'ai mon écharpe. Et puis bon, on essaie de faire en sorte de pas trop être trop près de tout le monde et puis ceux qui toussent, quoi.
Vous travaillez dans quel domaine ?
Je suis en boulangerie-cafétéria. C'est pour ça que là, le télétravail, pour moi, c'est compliqué. Il n'y en a pas. Hein. Ça inquiète un peu tout le monde, quoi. Mais bon, on n'a pas trop le choix tant qu'il n'y a pas d'autres décisions qui se soient prises pour nous, quoi.
Vous habitez où et vous allez travailler où ?
Bah, j'habite à Mantes-la-Jolie. Le train, ça peut aller, mais les mesures de confinement, ou enfin, les mesures de sécurité, comme ils disent, les sièges, ils ne sont pas à mettre.
Vous pensez qu'on en fait assez ou pas assez, justement, avec cette épidémie de coronavirus ?
Non, je pense qu'on en fait assez. Mais de toute façon, on va voir l'évolution. Pour l'instant, on est dans le flou complètement.
En attendant, à la SNCF, 70% des trains circulent aujourd'hui. À la RATP, il n'y a presque aucune perturbation pour les bus et les tramways. Avec 80% des métros, les transports en commun continuent donc à fonctionner quasi normalement pour l'instant, afin d'assurer tous les déplacements essentiels.
Yann Gallic en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Les transports du quotidien restent donc maintenus, mais oubliez les voyages non indispensables à travers la France. Le trafic des TGV sera réduit de moitié à partir de demain pour inciter les Français à se déplacer le moins possible. Oubliez le resto, la piscine, le musée, tout est fermé depuis hier, excepté les supermarchés, les pharmacies, les tabacs et les stations-service. Et les familles inaugurent aujourd'hui un premier lundi sans école, au moins jusqu'aux vacances de printemps. 12 millions d'élèves du primaire et du secondaire qu'il va falloir faire travailler. Certains profs ont distribué un planning, d'autres feront cours de chez eux. Mode d'emploi signé Sonia Princet.
Plusieurs possibilités pour faire cours à distance. Les professeurs peuvent passer par l'espace numérique de travail de leur établissement, l'ENT, qu'ils utilisent déjà dans les collèges et lycées pour les devoirs et les notes. Ils peuvent mettre des cours, des exercices et des corrigés à disposition de leurs élèves et interagir avec eux par message. Les enseignants ont également la possibilité de se servir de la plateforme du CNED Ma Classe à la Maison, qui propose des cours en ligne et des classes virtuelles. Exemple.
Les nombres de 17 à 59 avec les nouveaux mots en rouge que vous devrez apprendre, et ensuite les nombres de 60 à 99. Vous pouvez zoomer, si vous le souhaitez, si vous avez des problèmes pour lire.
L'enseignant est en visioconférence avec ses élèves. Mode d'emploi pour accéder à cette plateforme avec Édouard Geffray, directeur général des affaires scolaires.
Le chef d'établissement ou le directeur d'école envoie à l'élève et à sa famille l'adresse du site. Et ensuite, il suffit juste d'une adresse mail pour pouvoir se connecter et puis se reconnecter tous les jours pour avancer. Le principe de la continuité pédagogique, c'est que les professeurs envoient des travaux à faire à la maison, notamment via la messagerie, à leurs élèves. Et puis la classe virtuelle permet aussi, en direct, d'interroger l'élève et de voir s'il a compris telle ou telle partie du raisonnement et comment il répond.
Chaque professeur devra trouver les bonnes pratiques avec ses élèves, ce qui ne se fera pas sans tâtonnement au début.
Sonia Prince et Outre-mer, on signale un premier décès du coronavirus. Il s'agit d'une femme de 86 ans en Martinique. Et puis ailleurs dans le monde, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit sont désormais fermés à New York et Los Angeles. On attend ce matin la réaction des marchés financiers après l'annonce spectaculaire de la Banque centrale américaine hier qui baisse ses taux d'1%. Mauvais signe ce matin, la bourse de Sydney qui clôture, parce que c'est le soir là-bas, la bourse de Sydney vient de clôturer en baisse de presque 10%.
Merci Florence Paracuelos.